Ô Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen.
Merci pour me rappeler qu'il y a cette prière, c'est important. C'est important parce que c'est un déroulement un peu particulier que nous vivons ce matin. Il n'y a donc pas, comme Esther l'avait bien dit tout à l'heure, il n'y a pas de lecture à l'instant présent. C'est sur ce premier texte de la Genèse où Dieu semble confier à l'homme la possession et peut-être la domination de la terre que nous entrons dans cette méditation. Et je pense que ce texte de la Genèse, une fois qu'il est lu, pourrait être servi comme une sorte de confession du péché. Parce qu'il me semble que nos églises ne se sont pas tellement différenciées du reste de la société et qu'au cours des âges, ce texte a été un peu l'alibi de la domination presque à outrance, on pourrait dire, de l'humanité vis-à-vis de la création. Quand nous ouvrons la Bible avec une question qui nous préoccupe, comme celle aujourd'hui de la création, de notre rapport à la création, nous cherchons généralement un texte. Et il est tout à fait légitime, en ouvrant la Bible et avec quelques repères que nous pouvons avoir par ailleurs, d'aller immédiatement chercher ce texte que nous venons d'entendre. Et alors, si on y prend garde, effectivement, on y entend que l'être humain est au centre de la création, qu'il a le pouvoir, il est, on pourrait dire, au-dessus de tout, et qu'il peut, non seulement qu'il peut, mais qu'il doit régner, qu'il doit être capable de tout régenter. C'est ce que nous avons fait pendant des siècles et des siècles, et il a fallu d'abord peut-être des prophètes qui appartiennent peut-être au monde laïque. Je voudrais juste en citer un, j'étais très jeune, mes parents avaient à cette époque-là, je pense que c'était l'époque où peut-être tout le monde n'avait d'ailleurs que des télévisions en noir et blanc, où c'était peut-être le moment où on passait à la couleur. Et j'étais donc tout jeune et j'ai vu un monsieur qui s'appelait René Dumont et qui a eu un geste très simple en parlant d'un verre d'eau. Et je crois que René Dumont était à sa manière certainement un prophète qui pour l'heure a éveillé peut-être la curiosité de quelques-uns, mais n'a pas été tout à fait entendu dans l'argumentation qu'il proposait et cette menace qui, déjà pour les scientifiques, se profilait, mais que nous n'entendions pas vraiment à l'époque. Nos églises, comme bien d'autres secteurs de la société, étaient préoccupées par d'autres problématiques et il ne sert à rien de remonter l'histoire, c'est ainsi. Je crois que nos églises n'ont pas su entendre cet appel prophétique. Elles le font aujourd'hui et c'est évidemment l'important. C'est de nous rappeler que quand nous avons comme ça un texte qui nous dit quelque chose, nous avons à côté d'autres textes bibliques. La Bible n'est jamais, vous le savez bien, uniforme. Elle ne raconte jamais la relation de Dieu avec son peuple de manière droite. Il y a des bifurcations et cela est dû tout simplement à l'intrusion de l'histoire, au fait qu'à telle époque et à telle autre, les problèmes ne sont pas strictement les mêmes, même si on pourrait dire l'ossature de l'alliance entre Dieu et les êtres humains reste, elle, inébranlable. Nous avons d'autres textes, disais-je, et je voudrais en partager un maintenant. Il se trouve, lui aussi, dans le livre de la Genèse, juste après ce premier récit de la création, vous savez, vous savez bien qu'il existe un deuxième récit de la création où l'ordonnancement des détails n'est pas tout à fait le même, où l'homme et la femme, le récit de la création de l'homme et de la femme diffère un peu, mais également dans notre rapport, dans le rapport des êtres humains avec la création. Et je prends donc au chapitre 2, à partir du verset 4. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, et il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, afin que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. Il entoure tout le pays de Habila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est le Frat. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Voici donc un deuxième texte, et si vos oreilles n'étaient pas coutumières de ce texte ainsi que du premier, peut-être que ce que vous pouvez entendre comme différence, c'est que dans ce deuxième que nous venons d'entendre, il n'y a plus question de domination. Il y a question d'y être jardinier. Il y a question d'y être gardien. Et donc, le thème, on pourrait dire, de la domination est beaucoup moins présent. Être jardinier, pour ceux qui le sont un petit peu, vous savez que nous apprenons beaucoup de ceux qui sont à côté de nous, des jardiniers qui nous donnent des conseils. Nous ne sommes plus simplement allés chercher dans les rayons quel est le meilleur désherbant, mais nous entendons beaucoup de personnes qui nous disent « Tu sais, on peut faire aussi comme ci et comme ça. » Et donc, être jardinier, être responsable de son jardin, pour ceux qui l'ont expérimenté, vous comprenez tout d'un coup que nous sommes vraiment, non pas dans un esprit de fusion, nous sommes toujours des êtres humains, mais nous avons vraiment contact avec cette terre. Et si vous êtes jardinier, il y a deux techniques. Il y a celle du jardinier qui prend la terre dans ses mains et celle de la technique de celui qui le prend avec les gants. Mais même si vous prenez les gants, vous savez très bien qu'à un moment donné, on est obligé pour certaines petites opérations de les quitter. Et à ce moment-là, le contact nous rappelle que nous ne sommes pas si différents de cette création qui est, avec laquelle nous sommes en relation. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que de temps en temps, j'écoute avec ravissement des notions très, très, excusez-moi, je cherche un mot que je n'arrive pas à trouver, de vulgarisation des scientifiques. Et l'une d'elles m'a vraiment étonné, surpris, et en même temps permis de laisser mon petit cerveau ouvert, c'est que finalement, notre constitution de notre squelette n'est pas si différent de ce que nous retrouvons dans, au point de vue moléculaire dans la nature, que ce soit dans le sol ou voilà. Et donc, finalement, ce que ces scientifiques nous disent, on va dire d'un point de vue très scientifique, c'est que nous sommes effectivement assez proches de cette nature. Je ferme la parenthèse et j'essaye de terminer en disant que cette sauvegarde de la création, c'est une responsabilité que nous exerçons dans le cadre de l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est une orientation que nous prenons pour les générations qui viendront après nous. C'est une orientation qui dit que nous voulons rester dans cette relation que Dieu nous confie, non pas être des êtres humains avides de posséder, mais des êtres humains avides de respecter. La dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est un horizon qui n'est pas immédiat, un horizon qui n'arrivera qu'en 2017, mais vous le savez parce que nous entendons sur les médias ou dans les médias de temps en temps les mots de primaire à gauche et à droite. Il faudrait dire du centre, je sais, voilà, de la gauche, de la droite et du centre, c'est plus respectueux me semble-t-il. On n'entend pas trop parler de la primaire des écologistes, mais tout cela est en train évidemment d'être, on pourrait dire, en amont. Et bientôt nous serons avec des candidats qui auront franchi des obstacles chacun dans leur sphère et qui se présenteront donc à notre suffrage. L'impression que j'ai, c'est que cette problématique du respect de la création n'est pour l'instant pas tellement dans nos agendas. En tout cas, des agendas de ceux qui se présenteront à nos suffrages. Et je voudrais juste dire cela de manière très tranquille. Jésus ne nous demandera jamais de prendre une carte d'un parti politique, quel qu'il soit. Je pense que le royaume de Jésus n'était ni écologiste, ni de droite, ni de gauche, et que ce royaume, c'est un royaume dans lequel nous pouvons certainement imaginer que cela étant au centre, les notions même de droite, de gauche, d'écologie sont devenues assez dérisoires. Mais je pense que Jésus nous chercherait sans doute à nous dire, si tu es jardinier, si tu es respectueux de cette création qui t'est confiée, essaye de discerner parmi ceux qui se présentent à ton suffrage, celui ou celle qui te semble être le plus capable d'inscrire comme, non pas un agenda, mais comme une ligne forte, que cette création est vraiment au centre de nos relations sociales. Qui dit création dit évidemment aussi justice sociale. Seigneur, que lorsque cela deviendra notre agenda, tu nous aides à discerner en effet, parmi les différentes propositions qui nous seront faites, celui ou celle qui nous semble le plus capable d'être un peu comme un guide pour ce respect de la création que tu nous confies.